Les travailleurs grecs, victimes de la crise financière et de la domination des grandes puissances impérialistes européennes. Après avoir été plongés dans la tourmente de la spéculation financière pratiquement toute l'année 2011, avec une accélération à partir de l'été, la Grèce connaît provisoirement un certain répit. Pour combien de temps? Nul n'est capable de le dire, et certainement pas les chefs d'État de l'Union européenne, qui pendant toute cette période ont fait montre de leur impuissance face aux marchés financiers qu'ils avaient à cœur de, entre guillemets, rassurer. À peine un sommet européen s'était-il achevé, accouchant laborieusement d'un plan ou d'un projet de plan, qu'il fallait prévoir une nouvelle réunion et un nouveau plan. Quant au gouvernement grec, dirigé par le socialiste Georges Papandréou, il a sombré dans la tourmente. Le parti socialiste, le PASOK, avait remporté en octobre 2009 des élections législatives anticipées, intervenues alors que le parti de droite au pouvoir, la Nouvelle Démocratie, s'était déconsidéré, englué dans des affaires de corruption et confronté déjà à une aggravation de la crise. Papandréou, en arrivant au pouvoir, avait promis des changements importants. Entre guillemets, nous avons été élus pour bâtir un État social et non pour le détruire, déclarait-il, en prenant les premières mesures d'économie budgétaire peu de temps après la formation de son gouvernement. 2 ans plus tard, complètement discrédité, il devait quitter piteusement le pouvoir, 2 ans avant le terme de son mandat. Sa dernière manœuvre, qui a consisté à proposer un référendum sur sa politique d'austérité, ne lui a pas réussi et a peut-être même accéléré sa chute. Il avait en effet commis l'odieux sacrilège aux yeux des Sarkozy et Merkel de laisser supposer que la politique que ceux-ci lui avaient dictée pouvait dépendre, même un peu, de la volonté populaire. Depuis novembre 2011, Lucas Papademos lui a donc succédé à la tête d'un gouvernement de coalition qui comprend, aux côtés de socialistes toujours majoritaires à l'Assemblée, des ministres de la Nouvelle Démocratie, revenus au pouvoir plus vite qu'ils ne l'espéraient, et 4 représentants du Laos, un parti d'extrême droite nationaliste. Ainsi, 2 ans après leur victoire électorale, la faillite des socialistes a ouvert la porte des ministères à des hommes d'extrême droite, connus pour être ouvertement racistes et antisémites. De quoi, à juste titre, marquer les esprits. Pour autant, ce gouvernement s'inscrit complètement dans la continuité de son prédécesseur. Incarnation de cette continuité, le socialiste Venizelos continue d'occuper le poste de ministre de l'économie, comme dans le gouvernement Papandréou. Papademos est présenté comme un, entre guillemets, technicien, car il n'est membre d'aucun parti et était gouverneur de la Banque nationale au moment de l'adoption de l'euro par la Grèce. À ce titre, il avait donc été de ceux qui avaient déjà piloté une politique d'austérité imposée à l'époque à la population grecque sous prétexte de faire les efforts nécessaires pour, entre guillemets, être au rendez-vous de l'euro en 2001. Comme son prédécesseur, le gouvernement de Papademos a pour mission d'appliquer les mesures d'austérité édictées par les dirigeants européens. Ces derniers mois, de soi-disant spécialistes, des économistes ou des journalistes eux-mêmes, ont abondamment développé de pseudo-explications à la crise traversée par la Grèce. Entre guillemets, les Grecs ne travaillent pas assez. Ou bien, toujours entre guillemets, ils ont vécu au-dessus de leurs moyens, avec des propos frisant parfois le racisme et en tout cas souvent très méprisants. Crise grecque ou crise de l'euro. Il faut pourtant commencer par rappeler que ce que paie la Grèce, c'est d'abord l'incapacité des principales bourgeoisies européennes à unifier véritablement l'Europe. Si elles se sont péniblement dotées d'une monnaie unique, elles se sont refusées à renoncer à leurs États, susceptibles de défendre leurs intérêts dans la concurrence qui les oppose, susceptibles aussi de les aider financièrement. Avec l'aggravation de la crise à partir de 2008, les capitalistes de tous les États européens n'ont pas manqué de faire appel à cette protection, entraînant partout l'accroissement des déficits des États et de leur endettement. Les spéculateurs ont ainsi pu trouver le moyen de tirer profit de cette situation en établissant des différences entre les États de l'Union européenne. Si l'État allemand payait un taux d'intérêt de 4% pour un emprunt à 10 ans lancé sur les marchés financiers, l'État grec a vu les taux d'intérêt augmenter de mois en mois pour le même type d'emprunt, atteignant près de 20%. C'est cette envolée des taux d'intérêt qui a finalement conduit l'État grec à la limite de la banqueroute, obligeant les autres États européens à intervenir en lui prêtant l'argent qu'il ne pouvait plus emprunter sur les marchés financiers. En fait, les spéculateurs ne pariaient pas seulement sur la fragilité de la Grèce, mais aussi sur celle de l'euro. Mais les difficultés de la Grèce n'avaient rien de spécifique. Si la Grèce s'est trouvée être un des maillons les plus fragiles de l'Europe, rappelons aussi qu'il y en a eu d'autres avant. L'Islande et l'Irlande, par exemple, pour ne citer que ceux-là, et qu'il y en aura encore d'autres après, comme l'Espagne et l'Italie, qui ont été eux aussi la cible des spéculateurs récemment. Un État depuis longtemps dominé par l'impérialisme. Plus fondamentalement, la « entre guillemets fragilité » de la Grèce, qu'elle partage avec bien d'autres États de l'Europe, tient au fait qu'elle appartient à une zone dominée depuis le XIXe siècle par les grands pays impérialistes européens et dont le développement a été façonné par l'emprise de l'impérialisme. Rappelons que l'État grec moderne est né en 1832 à la suite d'une lutte pour conquérir son indépendance face à l'Empire ottoman, lutte dont l'issue ne fut victorieuse que grâce à l'intervention des puissances françaises et britanniques. Ces deux puissances imposèrent aux populations grecques une monarchie et décidèrent de celui qui devait régner, allant chercher l'obscur Othon de Bavière. Par la suite, elles ne cessèrent pas d'intervenir régulièrement dans la vie politique grecque, détrônant parfois un monarque qui avait contrarié leurs intérêts en imposant un autre ou rappelant le même quelques années après. Cet État grec fut donc, dès sa naissance, politiquement et économiquement, subordonné aux impérialismes français et britanniques, par deux fois déjà. En 1898 et en 1935, il dut se déclarer incapable de rembourser ses dettes, victime d'un, entre guillemets, déficit structurel, comme disent les économistes. La Grèce, très faiblement industrialisée, importait toujours plus qu'elle n'exportait. En 1898, une commission internationale de la dette fut constitué de représentants de la France et du Royaume-Uni, décidant de son budget et gérant les monopoles d'État. C'était la forme que prenait alors couramment la domination des puissances impérialistes européennes sur de nombreuses régions du monde. En définitive, depuis cette époque, la situation n'a pas beaucoup changé. On peut même dire qu'avec l'entrée de la Grèce dans l'Europe en 1981, et surtout depuis l'adoption de l'euro en 2001, cette emprise des impérialismes sur l'économie grecque n'a fait que s'accroître. Certes, l'État grec a pu bénéficier des subventions des fonds structurels destinés à la modernisation des infrastructures, au point qu'elles sont devenues sa première source de devises. Mais ces investissements ont avant tout été destinés à améliorer les moyens de transport, le fret et le transit international, ce qui était une condition indispensable au développement des activités des entreprises commerciales et industrielles de l'Europe occidentale. Certains économistes ou politiciens font semblant de se demander aujourd'hui si l'entrée de la Grèce dans la zone euro ne fut pas une entre guillemets erreur du fait de son entre guillemets retard économique. Mais ce ne sont que des hypocrites. Il est vrai que les comptes présentés par l'État grec à la Commission européenne ont été, entre guillemets, arrangés, de façon à respecter les critères de convergence définis par le traité de Maastricht, critères censés imposer des contraintes chiffrées aux finances publiques de tout État adoptant l'euro comme monnaie. Ce tripatouillage comptable ne fut rendu public que quelques années plus tard, et on sait aujourd'hui que la banque américaine Goldman Sachs fut le principal maître d'œuvre de ce maquillage des comptes publics grecs. À noter que l'actuel premier ministre grec Papademos joua forcément un rôle important dans cette opération en tant que gouverneur de la Banque de Grèce. Mais la Commission européenne de l'époque ne se montra pas trop regardante, car l'adoption de l'euro par la Grèce était une bonne affaire pour les capitalistes européens, allemands et français en particulier, qui se voyaient ainsi offrir un marché privilégié où leurs recettes ne risquaient pas de subir les variations intempestives des taux de change. Ils furent les grands gagnants de cette opération. La France est aujourd'hui l'un des principaux partenaires commerciaux de la Grèce et de nombreuses entreprises françaises sont présentes en Grèce. Pour ne citer que les contrats d'armement, ils profitent largement aux Thomson, Matra et Siemens. Le budget de la défense en Grèce représente 4% de son produit intérieur brut, faisant de la Grèce le pays qui dépense proportionnellement le plus en armement. En 2010, en pleine crise, la Grèce a acheté à l'Allemagne 6 sous-marins pour 5 milliards d'euros et à la France 6 frégates de guerre, entre parenthèses, 2,5 milliards d'euros, et des hélicoptères de combat, 400 millions d'euros. La France est particulièrement bien servie. Au total, si on rajoute des Mirage 2000, des véhicules blindés, des missiles de toutes sortes et des drones, les achats de la Grèce en ont fait le troisième client de l'industrie militaire française au cours de la décennie écoulée. Et il faut souligner que les plans d'austérité successifs n'ont jamais remis en cause les contrats passés. Les banques, en particulier, ont su tirer profit de l'entrée de la Grèce dans la zone euro en 2001. Elles ont prêté massivement au secteur privé comme au pouvoir public. Elles ont renforcé leur présence à travers des filiales, souvent en rachetant des banques grecques. Parmi les plus engagées en Grèce, on peut noter trois établissements français, le Crédit Agricole, la Société Générale et BNP Paribas. Le volume des prêts à l'État grec a augmenté de 50% entre 2005 et 2007, passant d'un peu moins de 80 milliards à 120 milliards de dollars. L'éclatement de la crise des subprimes en 2007, loin de stopper cette évolution, lui a donné un nouvel élan. Les banques ont alors utilisé les énormes liquidités mises à leur disposition par les banques centrales à très bas coût pour augmenter leurs prêts à la Grèce. Les taux d'intérêt plus élevés qu'elles lui faisaient payer leur permettaient d'empocher de juteux profits. Les banquiers ont considéré qu'ils n'avaient pas à se préoccuper de la capacité de la Grèce à rembourser ses dettes, son appartenance à la zone euro garantissant une intervention des grands pays européens. Jusque-là, leur calcul s'est révélé juste. Entre guillemets, sauver la Grèce ou sauver les banques européennes? Quand, à partir de 2009, l'aggravation de la crise a entraîné une détérioration de sa situation économique, la possibilité d'un défaut de paiement de la Grèce s'est faite plus menaçante. La première alarme est venue en décembre 2009 avec l'abaissement par l'agence de notation Fitch de la note de crédit à long terme des quatre principales banques commerciales du pays. À partir de là, la Grèce a vu le coût de son crédit s'envoler. Les banquiers, prétextant le risque encouru, pratiquaient des taux usuraires. Ce faisant, ils acculaient l'État grec à la banqueroute. Mais, dans le même temps, il faisait pression sur les États européens pour qu'ils interviennent pour garantir le paiement de la dette grecque et donc les profits que ces usuriers comptaient réaliser en étranglant l'État grec. Les banques françaises et allemandes, principales détentrices de titres de la dette grecque, entre parenthèses, possédant respectivement 26% et 15% de la dette publique grecque, se sont retrouvés le plus exposés à un risque de défaut de paiement de la Grèce. Cela a donné aux gouvernements français et allemand une raison supplémentaire d'intervenir. En plus de, entre guillemets, sauver l'euro, Sarkozy et Merkel devaient sauvegarder les intérêts de leurs banquiers nationaux. La première réunion extraordinaire des dirigeants européens pour discuter de la Grèce a eu lieu le 11 février 2010. Mais ce n'est qu'un mois plus tard, le 25 mars, qu'un accord est finalement intervenu entre les dirigeants de l'Union européenne et le Fonds monétaire international, entre parenthèses, FMI. Note numéro 1. Le FMI, financé par les apports de 187 États, et dans lequel les grandes puissances, à commencer par les États-Unis, occupent une position prépondérante, avait joué le rôle de pompier du système financier international en s'occupant, dans les années 80-90, de nombreux États du tiers-monde devenus incapables de rembourser leurs dettes. Sur un, entre guillemets, plan d'aide à la Grèce. En contrepartie d'un prêt de 110 milliards d'euros sur 3 ans, un mémorandum formulant les exigences de ces bailleurs de fonds était imposé au gouvernement grec. Ce long texte détaillait et souvent chiffrait les mesures attendues qui, toutes, visaient à faire payer la facture de la dette grecque à la population. Très clairement, les chefs d'État européens garantissaient aux banquiers que le gouvernement grec ferait payer sa population. Le mémorandum précisait que certaines de ces mesures devaient intervenir rapidement dans l'année en cours, comme par exemple l'augmentation de la TVA, entre parenthèses, qui devait rapporter selon les rédacteurs, entre guillemets, au moins 1 800 millions d'euros pour une année complète, et la suppression d'un certain nombre de jours de congés et de primes dont bénéficiaient les fonctionnaires, entre parenthèses, mesure dont il était attendu, entre guillemets, des économies nettes d'un montant de 1 500 millions d'euros. Mais le même texte précisait aussi ce que devaient être les grandes lignes du budget de l'État grec pour l'année 2011 et imposait la mise en œuvre de, entre guillemets, réformes structurelles. Une réforme des retraites avec allongement de la durée de cotisation et âge de départ repoussé, entre parenthèses et entre guillemets, y compris pour les travailleurs dans des professions pénibles et difficiles, précise le texte. Élaboration d'un plan de privatisation, fermeture des lignes ferroviaires déficitaires. Une, entre guillemets, troïka, constituée par des représentants de l'Union européenne, de la Banque Centrale Européenne, BCE, censée être indépendante des États européens, et du FMI, devait s'assurer que le gouvernement grec respectait ses engagements. Tous les 3 mois, une évaluation devait être faite, entre guillemets, suivant des critères détaillés, conditionnant la poursuite de l'aide financière. En effet, par la suite, à plusieurs reprises, les experts européens envoyés à Athènes se sont opposés au déblocage d'une partie du prêt accordé à l'État grec, estimant que celui-ci n'avait pas suffisamment satisfait à ses engagements. En fait, l'État grec se retrouvait complètement mis sous tutelle. Sous la pression des marchés financiers, les dirigeants européens durent annoncer en juillet 2011 un second, entre guillemets, plan de sauvetage, prévoyant un nouveau versement de 100 milliards d'euros et une restructuration de la dette grecque. À cette réunion furent conviés les représentants des banques détentrices de titres de la dette grecque. Ils ne furent pas rassemblés dans la même salle que les chefs d'État, mais pour obtenir leur accord, Sarkozy et Merkel durent les rencontrer en pleine nuit. Tout un symbole. Pourtant, contrairement à ce qui a été dit, aucun réel sacrifice ne leur était demandé. Il leur était proposé d'accepter l'annulation de 50% de la dette grecque, alors que sur les marchés, les titres grecs s'échangeaient avec une décote même inférieure à la moitié de leur valeur. Donc en réalité, les États européens garantissaient aux titres détenus par les banquiers une valeur supérieure à celle que leur offrait le marché. Et surtout, les États leur garantissaient que, quoi qu'il arrive, ils continueraient d'être payés. Mais jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, les banquiers entendaient dicter leurs conditions à ces chefs de gouvernement européens qui, pourtant, s'agitaient frénétiquement pour trouver une solution au problème de ces mêmes banquiers. Tous d'accord pour faire payer la population grecque. Si les désaccords ont été nombreux entre les gouvernements européens sur la forme que devait prendre leur intervention, il y a une chose sur laquelle tous étaient d'accord, c'est la population grecque qui devait payer la facture de la crise. Dans ce domaine, le gouvernement grec du socialiste Papandréou a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour donner satisfaction aux dirigeants européens. Un premier plan d'austérité, adopté en mai 2010, représentant une ponction sur les revenus de la population estimée à 4,8 milliards d'euros, prévoyait notamment une hausse de la TVA, entre parenthèses, le taux général passant de 19 à 23%, les taux réduits étant relevés, eux, de 4,5 à 5,5% et de 9 à 11%, et de plusieurs impôts sur la consommation, entre parenthèses, plus 40% pour la taxe sur les carburants, plus 20% environ pour celle sur les tabacs et alcools. Préconisé par le mémorandum de l'Union européenne et décidé par le gouvernement grec, la diminution rétroactive des primes de Noël, de Pâques et des congés d'été perçus par les employés du public a représenté une baisse d'environ 7 à 8% par mois des salaires de plus de 600 000 employés du secteur public, des collectivités régionales et locales et des organismes et entreprises publiques. Plus concrètement, un employé du public qui touchait un salaire de 1 000 euros a vu son salaire tomber à 900 euros. Les salaires et les pensions des salariés du public ont été gelés. Entre parenthèses, les salaires supérieurs à 2 000 euros ont été abaissés de 10%. Par la suite, les attaques contre le niveau de vie de la population se sont succédées quasiment sans interruption. Les salaires et les retraites dans le public ont été abaissés. Entre parenthèses, ainsi, en septembre 2011, les retraites supérieures à 1 200 euros par mois ont été réduites de 20%. De nombreux prix ont augmenté brutalement, ceux de l'électricité, des transports, plus 40%. Cela alors que le salaire moyen en Grèce était d'un peu plus de 600 euros en 2009, pour des prix qui étaient du même niveau que dans les capitales occidentales. Ce qui expliquait que tant de Grecs étaient obligés, avant même l'aggravation de la crise, d'avoir un deuxième, voire un troisième emploi en plus de celui qu'ils déclaraient officiellement. Le gouvernement a imposé une, entre guillemets, « réforme des retraites », terme utilisé actuellement par tous les gouvernements pour allonger la durée de cotisation, entre parenthèses, portée à 40 ans au lieu de 37, et repousser l'âge de départ à la retraite, entre parenthèses, de 58 à 60 ans. Une CSG sur les pensions publiques et privées supérieure à 1 400 euros a été instituée. Les droits à l'assurance maladie ont été restreints en augmentant le nombre minimum de jours travaillés exigés pour bénéficier d'une couverture sociale. Le gouvernement a annoncé qu'il n'y aurait qu'une seule embauche pour 5 départs à la retraite et que les emplois contractuels dans l'administration ne seraient pas renouvelés, ce qui a représenté un vaste plan de licenciement qui aurait concerné environ 35 000 personnes. Pour réduire encore davantage l'emploi public, un énième plan d'austérité en septembre 2011 prévoyait la, entre guillemets, mise en réserve de 30 000 fonctionnaires avec 60% de leur salaire. En réalité, cela constituait une première étape vers un licenciement, puisqu'ils avaient 12 mois pour trouver un nouvel emploi dans le secteur public. Le gouvernement a lancé un plan de privatisation annonçant vouloir en retirer 50 milliards d'euros, ce qui donne une indication de l'ampleur de ce programme. Pour résumer, tout ce qui peut être vendu doit l'être. Des sociétés pétrolières, des aéroports et des ports, la société d'électricité, la poste, la voirie et les services des égouts, l'organisme des concours hippiques et même 4 Airbus que le gouvernement cherche à revendre d'occasion. Dans tous les services publics, la baisse des budgets a entraîné une dégradation dramatique. Dans les écoles où manquent les professeurs et les manuels, dans la santé où la baisse de 40% du budget hospitalier entraîne une pénurie de personnel, dans les transports où le gouvernement s'est engagé à fermer les lignes de chemin de fer entre guillemets non rentables, définies par entre guillemets un remplissage inférieur à 50%. Aujourd'hui, à Athènes, personne ne sait quand les bus vont passer. Et en province, personne ne sait quel itinéraire va suivre le bus car, à la suite de la réduction du service, les chauffeurs sont amenés à improviser en fonction des souhaits des passagers. Quant aux bus scolaires de province, ils ont été souvent supprimés. Le gouvernement s'est aussi attaqué à la législation du travail, réduisant de moitié le préavis et les indemnités de licenciement des travailleurs du secteur privé et remettant en cause les conventions collectives. Enfin, pour compléter cette longue liste, il faut citer la création en septembre 2011 d'un nouvel impôt particulièrement impopulaire et injuste portant sur la propriété immobilière payé par le propriétaire ou par le locataire qui occupe les lieux. Comme il n'existe pas de cadastre en Grèce, il doit être perçu via les factures d'électricité, l'impôt s'appliquant à tout bâtiment pourvu d'un accès à l'électricité. Et ainsi, ceux qui ne paieraient pas se voient menacés d'une coupure de courant. L'Église et les armateurs épargnés par l'austérité. Mais cet impôt ne s'applique pas à tout le monde. L'Église orthodoxe en est exonérée. En fait, l'Église ne paie aucun impôt. Elle bénéficie de ce privilège depuis 2000, le gouvernement socialiste de l'époque ayant considéré que le rapport des impôts auxquels elle était soumise était trop faible et qu'il était donc inutile de les maintenir. Pourtant, l'Église dispose de richesses très importantes. Sous la forme d'un patrimoine foncier évalué à 130 000 hectares, entre parenthèses, mais en l'absence de cadastre, on ne le connaît pas précisément, et d'un capital financier très conséquent, entre parenthèses, on sait au moins qu'elle possède 9 millions d'actions équivalent à 140 millions d'euros à la Banque nationale de Grèce, et l'archevêque d'Athènes siège à son conseil d'administration. Par ailleurs, en Grèce, une partie importante des dépenses de l'Église sont prises en charge par l'État, puisque celui-ci paie les salaires des prêtres. Au total, l'ensemble des financements dont bénéficierait l'Église équivaudrait à plus de 200 millions d'euros par an dans le budget public. Une autre catégorie de la population, les armateurs, bénéficie tout à fait légalement d'une totale exonération fiscale, reconnu par un article de la Constitution grecque. Ce privilège leur aurait été accordé, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, afin qu'ils reconstituent la flotte grecque complètement détruite. Aujourd'hui, manifestement, le problème ne se pose plus. La flotte grecque, première flotte européenne, est classée dans les premières au niveau mondial. Et si l'on tient compte de la nationalité du propriétaire et non du pavillon, les armateurs grecs occupent même la première place au classement mondial, mais le gouvernement n'envisage pas du tout de revenir sur cette exemption. Un État au service de la bourgeoisie grecque. Cette catégorie particulière de capitalistes bénéficie d'un privilège particulièrement choquant car il est officialisé et donc particulièrement visible. Mais c'est l'ensemble des capitalistes qui échappent en grande partie à l'impôt. Les médias français ont beaucoup glosé sur la entre guillemets fraude fiscale qui serait un entre guillemets sport national en Grèce. Mais c'est d'abord et principalement un sport de riches. Seuls les plus riches peuvent envoyer leur fortune dans des comptes à l'étranger, en Suisse par exemple, où les sommes déposées par les Grecs se monteraient à 280 milliards d'euros. Rappelons d'ailleurs que la fraude fiscale n'a rien d'une spécificité grecque, car si elle est évaluée en Grèce à près de 30 milliards d'euros par an, elle serait en France d'environ 40 milliards d'euros, d'après une estimation du Syndicat national unifié des impôts, SNUI. En Grèce, il est vrai, cette fraude est plus ouverte. Ainsi, quand, en mars 2009, le gouvernement a envisagé un prélèvement spécial sur les revenus supérieurs à 150 000 euros, il n'a même pas trouvé une dizaine de contribuables ayant déclaré une telle somme. Pourtant, ces grandes fortunes, elles ne sont pas compliquées à trouver quand on cherche vraiment. Car il existe en Grèce de riches familles à la tête de groupes capitalistes qui ont prospéré en nouant souvent des alliances avec de grandes multinationales étrangères, comme la famille Marinopoulos, propriétaire des magasins Carrefour, ou la famille Veropoulos, associée au groupe de distribution Spar, pour ne citer que ceux-là qui disposent d'enseignes très visibles dans le pays. Et ce n'est pas une question, entre guillemets, d'efficacité insuffisante de l'État grec, qu'il serait nécessaire de, entre guillemets, moderniser, discours qu'on entend souvent répéter. Si l'État grec ne cherche pas à faire payer les classes riches, l'explication est sociale. C'est parce qu'il est à leur service. C'est parce qu'il leur est lié par mille liens humains et financiers. Et tous ceux qui se sont relayés au pouvoir ces dernières années, qu'ils aient été de droite ou socialistes, qu'ils aient gouverné séparément ou ensemble, n'ont eu qu'une seule préoccupation. Faire payer la crise aux classes populaires et permettre à la bourgeoisie grecque de continuer profitablement ses affaires. Les conséquences des plans d'austérité. En 2 ans, les mesures d'austérité ont provoqué un appauvrissement terrible d'une partie importante de la population grecque. Même des catégories de la petite bourgeoisie, jusque-là plutôt préservées, ont vu leur niveau de vie diminuer du fait de la hausse des prix et des impôts, du fait de la baisse des salaires, qui a été plus importante pour les fonctionnaires les mieux payés. Entre parenthèses, des enseignants ont vu leur salaire divisé par 3 en peu de temps, et avec la récession qui a entraîné de nombreuses faillites. D'après l'Association des commerçants de Thessalonique, 2 commerces sur 10 auraient fermé leurs portes entre janvier et septembre 2011. Le nombre de chômeurs a connu une très forte augmentation. D'après les statistiques officielles, de 6% en 2008, il est passé à 14,5% en octobre 2010. Au début de l'année 2012, il dépasse probablement les 20%, touchant particulièrement les plus jeunes. Entre parenthèses, près de la moitié des 18-25 ans seraient sans emploi. Mais ces chiffres sous-évaluent largement la catastrophe sociale qui frappe les travailleurs grecs. Officiellement, le nombre d'actifs a diminué en 2010 dans tous les secteurs, sauf dans l'agriculture. Cela signifie simplement que des milliers de personnes, sans perspective de trouver un travail, tentent de survivre en, entre guillemets, retournant à la terre. Conséquence de l'augmentation du chômage et des différentes réformes de l'assurance maladie, le nombre de gens qui ne sont plus du tout couverts par le système de sécurité sociale a augmenté. En très peu de temps, des milliers de personnes ont basculé dans la pauvreté. Pour la Grèce, les statistiques européennes considèrent comme, entre guillemets, pauvre, une personne seule qui a un revenu moyen annuel inférieur à 12 763 euros, considéré comme le seuil de pauvreté. D'après les dernières statistiques officielles, il y aurait 28% de pauvres, soit 3 millions de personnes sur une population de 11 millions. Mais cette pauvreté se mesure surtout par les milliers de sans-abri qui ont envahi les trottoirs d'Athènes et de Salonique. Beaucoup d'immigrés venant d'Afghanistan, du Pakistan ou des Balkans, qui travaillaient dans le bâtiment ou le ménage, ont été licenciés, et du fait de la fermeture de nombreux centres d'accueil, se retrouvent à la rue. Cela se mesure aussi par le fait qu'une ONG comme Médecins du Monde a ouvert un centre de soins à Athènes où elle a effectué 11 000 consultations en quelques mois, remplaçant en fait le dispensaire qui venait de fermer peu de temps auparavant, faute de financement. Et cette pauvreté touche bien des jeunes Grecs, même ceux dont les études leur ont permis de décrocher des diplômes. Les jeunes qui manifestaient en 2008 lors de mobilisations étudiantes se désignaient comme appartenant à la entre guillemets génération des 600 euros. Aujourd'hui, la presse évoque plutôt la génération des 400 euros, celle des jeunes qui se considèrent presque chanceux de trouver des stages sous-payés ou des petits boulots à 2 euros de l'heure. Les mobilisations contre les mesures d'austérité. Les attaques gouvernementales ont suscité des mobilisations dans la population. Les confédérations syndicales, celles des secteurs publics, entre parenthèses ADD, et privés, entre parenthèses GSEE, et PAM, le syndicat lié au Parti communiste, entre parenthèses KKE, ont appelé, ensemble ou séparément, à des journées de grève générale quasiment tous les deux mois dans les deux dernières années. À chaque fois, ces appels ont entraîné des grèves, surtout dans la fonction publique. Des manifestations massives de dizaines de milliers de personnes ont eu lieu à Athènes. À certains moments, en particulier en septembre-octobre 2011, les mobilisations ne se sont pas limitées à ces journées d'action. Des grèves eurent lieu quasi quotidiennement dans la fonction publique, dans les ministères, dans les transports, parmi les salariés des ports, parmi les éboueurs, les pompiers, en général pour s'opposer aux baisses de salaire et aux privatisations. Même des policiers et des gardes-côtes ont manifesté contre la diminution de leur salaire. De nombreux établissements du secondaire ont été occupés par des lycéens et des collégiens, tandis que des milliers d'étudiants se mobilisaient pour dénoncer une réforme préparant une, entre guillemets, privatisation des universités. Des professions moins habituées à manifester sont descendues dans la rue, des avocats, des chauffeurs de taxi, des commerçants. Le 28 octobre, jour de la fête nationale grecque, les manifestants sont parvenus à empêcher la tenue du défilé militaire et ont obligé le président Papoulias, entre parenthèses, président de la République grecque post-honorifique, à quitter les lieux. Quasiment l'ensemble des hommes politiques qui ont assisté au défilé ce jour-là ont été attaqués verbalement, voire agressés par les manifestants. Ces mobilisations ont été importantes, et les travailleurs y ont exprimé leur exaspération et leur colère, mais aussi leur désespoir face à une situation qui leur apparaissait sans issue. Car si beaucoup de manifestants réclamèrent le départ du gouvernement et, entre guillemets, de tout pouvoir politique favorable aux mesures économiques imposées par le mémorandum, ils ne formulaient pas de revendications qui auraient pu constituer des objectifs de lutte. Peut-être, de toute façon, la combativité des travailleurs en Grèce n'était-elle pas suffisante pour arrêter le rouleau compresseur qui était en marche. Mais sans perspective propre, aucun mouvement n'aurait eu la possibilité de le faire. Et de telles perspectives affirmées au cours de luttes, même défaites, peuvent préparer de nouvelles luttes dans l'avenir. Les travailleurs doivent se préparer aux luttes de l'avenir. Alors ce qui s'est passé ces derniers mois en Grèce concerne les travailleurs ici en France à plus d'un titre. D'abord parce que cela montre comment la crise du capitalisme peut entraîner un pays entier dans une régression dramatique, le ramenant quasiment par certains aspects au niveau d'un pays du tiers-monde. Ensuite, parce que cela démontre, malheureusement en creux, à quel point il est vital pour les travailleurs de se préparer aux luttes futures, qui ne manqueront pas d'éclater en ayant leur propre programme. Face à la bourgeoisie et à ses représentants de tous bords politiques, qui eux ont un programme avec une panoplie de mesures contre les travailleurs et toutes les couches populaires, les travailleurs doivent avoir eux aussi un programme avec des mesures susceptibles de les protéger de la crise en faisant payer les capitalistes et les classes riches. Un tel programme ne peut être qu'un programme de lutte imposé par les mobilisations. 12 janvier 2012.